Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous. Bon dimanche à vous, bon petit déjeuner. Vous allez voir, on va vous accompagner durant 3 heures pour notre plus grand plaisir. Les GG, c'est l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast, tous les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG, l'équipe de France de foot est pointée du doigt par l'ONG Amnesty International qui lui reproche son mutisme face aux violations des droits de l'homme au Qatar. La FFF dénonce une campagne de stigmatisation. Les Bleus doivent-ils plus s'engager? Et vous n'êtes pas d'accord dans le studio RMC. À 9h30, la punchline des GG, signé Guinoves. Je ne peux pas être plus heureux que de voir dans quelle merde ils sont. Eux, ce sont Bernard Laporte, Serge Chimon et Mohamed Altra dans plein procès pour corruption. L'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du rugby français a-t-il le droit de dire ça? Et puis 10h, nous passerons la seconde autour des mondiaux de cyclisme qui viennent tout juste de se terminer. Remco Evenepoel, le Belge et le nouveau champion du monde, Christophe Laporte, notre Français, termine deuxième. Est-ce déjà une victoire pour les Bleus?
Remco Evenepoel a 22 ans qui va donc succéder à Julian Alaphilippe après avoir remporté le Tour d'Espagne, après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège. Remco Evenepoel, celui que l'on présente comme le nouvel Eddy Merckx, le nouveau cannibale, le jeune Belge de 22 ans qui va donc s'imposer ici à Wollongong dans une course parfaitement maîtrisée.
Eh oui, Julian Alaphilippe n'est plus champion du monde. Nous allons crier notre désarroi, évidemment. Les GG du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Olivier Giroud, c'est très difficile de s'en débarrasser. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Est-ce que tu m'emmènes
au mondial?
Ouais, au mondial.
Tu t'emmènes où tu veux.
Ou je sais pas, dans une saison supplémentaire des grandes gueules du sport.
Une saison seulement, ouais, mais beaucoup plus.
Je marque pas mal de buts quand même.
Et à la maison aussi, ouais, tu viendras. Si tu veux.
C'est indispensable.
Mais bien sûr, tu es indispensable. Évidemment, mon cher Christophe. Toujours. Très heureux d'être avec toi dans les grandes gueules du sport. Une grande gueule qui, comme Olivier Giroud, plus il vieillit, plus il est bon. C'est Marc Madiot. Salut Marc.
Salut à tous.
Elle est bien la stratégie des Bleus pour les mondiaux? Oui, non.
Là, il est énervé. Là.
Non,
il est énervé.
Non, à la base, elle est bonne. Ouais. Après, quand on part sur un mauvais chemin, on peut faire le rectificatif en temps et en heure.
Ok, on en parlera à partir de 10h et nous allons boire tes paroles, évidemment. Une grande gueule qui, comme Olivier Giroud, n'accepte pas d'être un second couteau, c'est Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Second couteau, mais numéro 1 bis, on peut le dire.
Exactement, et puis qui marque dès qu'il entre en jeu, voilà.
Bien sûr.
Efficace.
Simon, toujours très heureux de te retrouver. Et puis une grande gueule qui, comme Olivier Giroud, a eu son Benzema. Lui, c'était David Douillet. Cyril Marais, salut Cyril.
Bonjour à tous, salut.
Tout va bien, mon Cyril?
Super, impeccable.
En forme, t'as envie de parler de vélo ce matin ou pas?
Bon, il y a un spécialiste, mais on va parler un petit peu aussi.
On va bredouiller un petit peu, oui, t'as raison, évidemment. Il ne faut pas juste. Marc Madiot, tu vois, c'est. Évidemment, il est impressionnant, c'est le charisme, c'est l'entité du cyclisme, mais il faut lui rentrer dedans quand même, et je compte sur
il
vous, évidemment.
Il adore qu'on lui rentre dedans, en plus.
À partir de 10h. On va débuter cette émission avec cette citation de Yann Tiersen, qui a dit un jour, jouer sur scène, c'est déjà un engagement politique.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Selon le journal britannique The Guardian, plus de 6500 travailleurs étrangers sont décédés sur les nombreux chantiers de construction depuis 2010.
Deux mois avant la Coupe du Monde, un bar irlandais boycotte la Coupe du Monde 2022.
Amnesty cherchait une prise de parole de la fédération sur ce sujet ultra sensible avant le mondial au Qatar.
Donc, vous allez y aller,
ça. Moi, d'abord, on verra.
Bien, le journal invoque des atteintes intolérables à la dignité, aux libertés humaines, aux minorités, à la planète dans l'organisation de cette compétition.
La compétition est également pointée du doigt par ses détracteurs pour son impact écologique.
Plusieurs fédérations européennes ont déjà pris position sur les droits de l'homme au Qatar.
L'équipe de France de football dispute ce soir son dernier match avant la Coupe du Monde, une rencontre de Ligue des Nations. au Danemark. Face au Danemark, évidemment, ce sera à suivre sur RMC. Mais ce week-end, les Bleus ont été emmenés sur un autre terrain, sociétal, politique, les droits de l'homme au Qatar, l'ONG Amnesty International fustige le silence assourdissant de l'équipe de France face aux milliers de travailleurs migrants décédés sur les chantiers qataris. Et cette semaine, on apprenait que le capitaine des Bleus à la Coupe du Monde porterait un brassard pour lutter contre les discriminations. La musique qui fout les jetons est cette question. Les Bleus doivent-ils plus s'engager? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Marc Madio.
Non.
Simon Dutin.
Oui.
Cyril Marais.
Non.
Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut les GG.
L'engagement des Bleus est remis en cause ce week-end.
Oui, depuis plusieurs mois, Amnesty met la pression sur la Fédération Française de Football afin d'obtenir des garanties sur le Mondial au Qatar. En début d'année, les dirigeants de la 3F avaient reçu les membres de l'ONG, mais depuis, plus aucun signe sur ce sujet sensible des droits humains au Qatar. Amnesty a donc publié un premier communiqué cette semaine où ils annoncent supporter l'équipe du Danemark pour la rencontre de ce soir. Participer ne signifie pas fermer les yeux et cautionner, a réagi hier le matin la Fédération Française de Football, lourdement critiquée pour son attentisme sur la question des travailleurs migrants. Avec ironie, l'ONG a fait une réponse dans l'après-midi. Nous demandons à la Fédération que ces annonces soient mises en œuvre. Le temps presse avant le lancement de la Coupe du Monde. Depuis 48 heures, Amnesty peut s'en satisfaire. Ils ont eu le droit à un communiqué de la FFF et surtout une réponse du capitaine Raphaël Varane.
C'est très bien de poser la question. C'est évidemment un sujet qui est sensible, qui est grave. On sait ce qui se dit. Évidemment, en tant que joueur, on hérite un peu d'une situation, on va dire, avec une décision qui a été prise il y a plus de 12 ans maintenant. Évidemment, on suit ce qui se passe. Il y a eu un communiqué de fait. Chacun a sa place, chacun son rôle. La Fédé a communiqué dessus. Je pense que chacun a un rôle à jouer. Je pense que c'est important de parler de certains sujets, les droits de l'homme, toutes les discriminations. C'est des sujets très graves, très importants. Et le fait d'en parler, de mettre la lumière aussi dessus, le fait de porter, par exemple, le brassard que j'ai porté lors du dernier match, c'est aussi des symboles forts. La Fédé a été claire sur le sujet.
Selon nos informations, Amélie Oudéa-Castéra a demandé à la Fédération de se poser des questions sur le Qatar et que la FFF prenne des initiatives sur ce sujet. Le capitaine des Bleus fait surtout cette déclaration sur les terres de la sélection, souvent prise en exemple au niveau européen. Leur adversaire du soir, le Danemark, ils ont prévu de porter dans l'Émirat des tenues d'entraînement affichant des messages sur les droits humains. Et pour le débat, on signale qu'Amnesty ne demande pas le boycott de la compétition, mais plutôt une prise de conscience et une aide financière pour les victimes.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat. Les Bleus doivent-ils beaucoup plus s'engager avec cette Coupe du Monde au Qatar? Oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai deux oui, j'ai deux non en plateau. Pourquoi oui, Christophe Cessieux?
En tout cas, j'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience qui a été un peu imposée par la ministre des Sports, parce que jusqu'à hier, c'était un silence assourdissant quand même de la part. Je ne parle pas de l'équipe de France de football, je parle de la Fédération Française de Football. Déjà qu'elle trimballe un paquet de casseroles depuis des semaines, mais là, ce silence était vraiment assourdissant. D'autant que, comme l'a dit Nico, le Danemark a déjà fait des choses. On est dans une société aujourd'hui, comme on dit, en plein wokisme. Donc effectivement, il faut faire des choses. Il faut montrer que l'on s'intéresse aux problèmes sociétaux, que l'on s'intéresse aux problèmes des minorités. Alors il y a cette histoire de brassard que vont porter les capitaines de 8 sélections européennes dans les matchs de préparation. Je ne sais pas si ce sera autorisé par les autorités qataries durant la Coupe du Monde.
Normalement, c'est prévu que ce soit à la Coupe du Monde.
Mais on n'a pas encore la réaction des autorités qataries. Ouais. Je me demande ce qui va se passer. C'est pas gagné non plus cette histoire d'avant. Et puis il y avait donc cette injonction d'Amnesty International à ce que l'équipe de France et la Fédération française ouvre sa bouche et donne fasse quelque chose en faveur des droits des gens qui ont été victimes de la construction des stades au Qatar. Jusqu'à présent, ça n'avait pas été fait. Aujourd'hui, ils le font. Je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on est obligé de le faire. Même s'ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent, au moins qu'ils le fassent. Alors, on ne va pas demander, évidemment, à Kylian Mbappé de balancer sur les autorités qataris. C'est quand même son employeur numéro un.
Attends quelques gestes supplémentaires.
Voilà, il faut faire des gestes symboliques.
Ok. Marc Madio, t'es pas d'accord?
Je suis pas d'accord, tout simplement, parce qu'il y a combien de temps qu'elle a été attribuée à la Coupe du Monde?
2010, donc ça fait 12 ans.
12 ans. Elle a lieu dans combien de temps?
Deux mois, je crois.
Bravo!
Tu veux encore une autre temporalité? Je peux tout te dire.
Ouais!
Mon anniversaire, c'est dans 8 mois.
C'est bien aussi. Non, il y a quand même un problème. On veut faire porter aux sportifs des étendards qui ne leur reviennent pas. Moi, je pensais que c'était mieux qu'Amnesty s'adresse directement à notre Saint-Père, le Président de la République.
S'il y a quelqu'un qui peut décider d'une action et de quelque chose d'envergure, c'est le président de la République et c'est l'État et le gouvernement français. Et faire vouloir porter aux sportifs des étendards, des prises d'opposition, on peut toujours en avoir. La symbolique, d'accord, pas de problème, on peut tous s'engager sur la symbolique.
Et c'est les sportifs qui ont décidé d'aller au Qatar, enfin c'est les autorités sportives, Marc, qui ont décidé d'aller dans ce pays, avec
le consentement des pouvoirs politiques.
Évidemment.
Donc ne faisons
pas les sportifs qui attribuent les...
C'est aux joueurs de l'équipe de France.
C'est pas eux qui ont décidé d'aller au Qatar.
C'est à la Fédération française et sous injonction du ministère.
Pourquoi je suis sur cette ligne-là?
C'est les autorités sportives, Cyril.
Je vais vous dire pourquoi je suis sur cette ligne-là.
C'est pas le président de la République.
C'est pas les joueurs,
c'est les présidents des fédérations.
Ouais, mais
vous dépendez des
facilité,
les gars.
La facilité, Marc, l'affichage, c'est de dire je suis contre de faire d'agiter des petits drapeaux. Moi, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques mois et on va sortir du Qatar, on va aller en Russie. Il y a une équipe russe de cyclisme qui s'appelait Gazprom. Elle était financée donc par Gazprom. Cette équipe était essentiellement italienne. Il y avait quelques coureurs russes, l'encadrement était italien, il y avait des coureurs italiens, il y avait plusieurs nationalités. Pour faire beau sur l'affiche, on a dit, on élimine cette équipe. On a viré cette équipe du cyclisme mondial. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Il y a 50 ou 60 personnes qui n'ont plus à bouffer à la fin du mois. Des Russes qui ont le droit de vivre. Je suis désolé, tout le monde n'est pas Poutine. Les Russes ont le droit de vivre. Il y a des pauvres mécanos, assistants, coureurs italiens qui étaient dans cette équipe, qui n'ont rien demandé à personne. Eux, ils se retrouvent à la rue du jour au lendemain. Ils n'ont pas eu un centime d'euro d'aide. Et on a pavané, on a dit, oui, on a fait quelque chose, on a viré une équipe. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu remonté contre tout cet affichage. Un peu facile et un peu simple. On se donne bonne conscience facilement. Moi, je suis désolé, quand je vais voter, je mets un bulletin de vote dans l'urne. Et quand il y a des pouvoirs politiques qui existent, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. C'est à eux d'assumer. Que nous, on ait un affichage, qu'on mette un brassard, qu'on dise, c'est pas bien, tout à fait d'accord. Mais à un moment, faut remettre les choses dans l'ordre. Et dans le vrai cheminement que ça devrait avoir.
Ok, c'est dit, le coup de gueule de Marc Madio. Simon Dutin, réponds à Marc.
Si on place Kylian Mbappé sur le terrain de la réelle politique, effectivement, ses patrons, c'est le Qatar, il peut rien faire. Ça vaut également pour Emmanuel Macron, le président de la République. Quand tu vois le montant des investissements du Qatar dans notre pays, là aussi, il y a de la réelle politique et tu peux pas envoyer le Qatar se faire voir parce que t'as besoin de leurs investissements. Il faut en être conscient. Effectivement, ça fait 12 ans. Les polémiques, elles avaient déjà commencé. Hein. Vous souvenez des stades climatisés. On nous parlait déjà de nuages artificiels pour faire tomber la pluie à l'époque où on espérait encore faire ça l'été. Alors déjà, il y a cette espèce d'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, le Qatar quand même, il ne faut pas tourner la tête et tout. Et on nous parle en gros du bilan carbone de cette compétition qui n'est pas vraiment du tout le problème. Le problème, il est effectivement
le traitement des
travailleurs migrants et la façon dont ils sont empêchés de quitter le pays parce que on conserve leur passeport, parce qu'ils sont maltraités, parce qu'on maquille un petit peu leur mort accidentelle parce qu'il n'y a pas les conditions pour bosser. Effectivement, bon, tout le monde se réveille maintenant parce qu'il y a coup de projecteur, c'est dans 2 mois. Mais à partir du moment.
C'est toujours le cas, à chaque fois avant une compétition, de toute manière, regarde ce qui s'était passé pour les Jeux Olympiques en Chine, pour les Jeux Olympiques en Russie. C'est à 2-3 mois de la compétition que tout le monde se réveille. De toute manière, c'est toujours comme ça. Hein.
Et, évidemment, mais. Soit tu dis, écoutez les gars, c'est du sport, vous arrêtez vos bêtises, c'est un problème plus vaste et c'est pas autour d'une Coupe du Monde qu'on va régler ça. Soit, effectivement, si tout le monde s'y met, il y avait la Norvège, bon ils sont pas qualifiés, qui les premiers avaient, pendant un hymne, affiché un message, on joue pour les travailleurs migrants. Il y a effectivement les Danois, Amnesty, qui joue un peu c'est des enfantillages, hein, Amnesty qui a communiqué en disant ce soir, nous on est pour le Danemark, hein, parce que le Danemark, ils ont changé de sponsor, ils ont mis des messages et tous les Français, c'est pas bien. Mais effectivement, là, cette semaine, nous, la presse, là, on a l'impression de s'emparer du truc. Cette semaine, c'était devenu intenable pour la FA, la Football Association, c'est l'équivalent anglais de la fédération. Ils ont été obligés de communiquer, ils sont sortis du bois, et ils ont annoncé, ça vaut ce que ça vaut, ça va pas changer la face.
C'est juste des mesures symboliques.
Ouais, alors, il y a ce brassard, effectivement, One Love, qui reprend, alors, c'est pas le même code couleur, mais en gros, une multitude de couleurs qui est censée évoquer la lutte pour les combats LGBT. Mais effectivement, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va, on demande une compensation pour chaque mort de travailleurs migrants. Alors bon, c'est pareil, hein, avant qu'ils aient gain de cause. Mais au moins, ils communiquent là-dessus, ils s'engagent. Ils ont dit on va s'engager pour qu'il y ait un centre pour les travailleurs migrants qui soit créé au Qatar. Et Et ça, je pense que c'est la mesure la plus symbolique, et je pense que c'est celle qui peut avoir le plus d'effet auprès de l'opinion publique. Ils se sont engagés à recevoir des travailleurs migrants au camp de base de la sélection anglaise, et qui vont pouvoir venir échanger avec Harry Kane, avec tous les joueurs anglais. Et ça, je pense qu'avec les caméras et en mondiovision, ça peut avoir un impact sur le public.
Ok, c'est un bon engagement pour toi, et ce serait en tout cas la voie à suivre.
Et c'est pas compliqué, tu vois.
Pour l'équipe de France, ce n'est pas le rôle du sportif de s'engager autant. Cyril Marais, pourquoi non?
Moi déjà, ce qui me dérange, c'est le terme prise de conscience. Personnellement, enfin, je veux dire, vous pensez réellement que les sportifs, c'est à 2 mois de la Coupe du Monde qu'ils se sont dit, ah, putain, il y a eu 6500 morts là-bas pendant qu'ils ont construit les stades. Mais tout le monde le sait depuis le départ, en fait. Et forcément, c'est quelque chose d'hyper important, les droits de l'homme. Bien sûr, tout le monde se sent offusqué par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire, les sportifs? Ils y vont pas? Ils font pas? Moi, j'ai fait les Jeux Olympiques au Brésil. J'ai été en stage, j'ai été en tournoi. Il y avait des grands chelems qui étaient organisés au Brésil tous les ans. On était sur les plages de Copacabana, Ipanema. C'est génial. Tu recules de ne serait-ce qu'un kilomètre dans les terres, t'es dans les favelas, c'est la jungle. Ils ont pas à bouffer, ils crèvent la dalle là-bas. Et je fais quoi? Je vais pas faire les Jeux Olympiques, ma seule opportunité d'aller faire les Jeux Olympiques, j'y vais pas. Je boycotte parce que ça se déroule au Brésil. Donc non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, ils essayent de faire des choses. À chaque fois qu'il y a un message qui est passé, alors oui, là, il y a un brassard de mie, je regarde sur les réseaux sociaux, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Donc ça veut dire que les sportifs, ils sont pris au piège. Ils doivent avoir des bandes. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'ils aient un t-shirt qui soit à rallonge pour mettre des messages dans tous les sens. Sauver le monde. Oui, bah bien sûr, c'est obligé. Ok, d'accord, c'est très regardé. Le football, c'est très regardé. Tout le monde les voit, tout le monde les regarde. Le message, il est hyper important. Mais à un moment donné aussi, le sportif, il est là pour être professionnel. Il est là. Et puis on se bat au quotidien pour que le sport soit apolitique, en fait. On se bat au quotidien pour ça. Alors, laissez les sportifs faire leur truc. Bien sûr, les messages, c'est primordial de faire passer des messages de paix, de lutte contre toutes ces discriminations. C'est primordial. Mais à un moment donné, enfin, je veux dire, chacun sa place aussi. Et puis, à minima, c'est bien. Oui. C'est important. Non. Mais quand je dis à minima, c'est bien. Non, plus on va faire, mieux ce sera. Je suis d'accord. Mais pas le sportif. C'est tout le temps le sportif qui est mis au centre des débats.
Arrêtons de responsabiliser les sportifs.
Tout le temps. En l'occurrence, ce sont les autorités sportives mondiales qui ont décidé d'organiser cette Coupe du Monde au Qatar. Donc,
pas tout à fait. Hein. Les États sont quand même
La FIFA est bien contente d'aller là-bas.
Mais quand même,
cette Coupe du Monde.
C'est pas le gars qui tape dans le ballon qui a décidé.
Mais pas du tout. Je dis pas. C'est aux joueurs. Les joueurs, c'est la vitrine.
Oui.
La FIFA, c'est pas à eux. Ils vont faire ce qu'on leur demande de faire. C'est aux autorités sportives. C'est à Noël Le Graët et c'est au président de la FIFA de faire des choses. Exactement. Mais je te dis pas que c'est aux sportifs de prendre.
Oui, mais l'impact.
On peut pas en demander plus que plus.
On va pas demander à Noël Le Graët de mettre un t-shirt.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire. En fait, tu mets Le Graët se trimballer dans la rue avec ça, ça sert à rien. Mais bon.
Oui, non, mais si, quand même. Non, mais c'est aux autorités sportives d'impulser le truc. Voilà, je dis pas que c'est aux sportifs de, c'est pas eux qui ont décidé d'aller au Qatar.
C'est
la Fédération française, c'est la FIFA, c'est
donc dans ton raisonnement, Christophe, les sportifs, ils ont pas le choix, ils doivent suivre ce que vont demander leurs autorités, leur patron, la
Fédération française de foot et tout ça.
Ils peuvent aussi, et là je vais peut-être à l'inverse de votre discours, les sportifs, anciens sportifs, ils peuvent aussi se responsabiliser en disant à leur fédération, écoutez, on sait ce qui se passe.
Tu plaisantes, là ?
Non, attends, je finis et après tu vas pouvoir m'engueuler. Mais je sais, on sait ce qui se passe. On aimerait faire une action symbolique, évidemment, qui ne va pas mettre le Qatar à feu et à sang, mais on voudrait faire quelque chose de symbolique parce que c'est important pour nous. On sait qu'on est une vitrine. Les sportifs peuvent se dire ça aussi. On sait qu'on est une vitrine. On n'a pas non plus envie de faire que de la politique pendant 2 mois, mais on peut faire une petite action. Nous aussi, à notre niveau.
D'autant plus que ça ne mange pas de pain, JC. Tu prends un risque quand même très, très mesuré. Un boycott effectif qui n'arrivera pas.
On a eu le débat sur le boycott. Personne n'était pour le boycott la semaine dernière. On ne demande pas s'il y a un boycott de la Coupe du Monde, loin de
là. Et surtout qu'une sélection qui boycotterait effectivement, ça n'arrivera pas, mais qui boycotterait effectivement la compétition, ce serait désastreux en termes d'image pour le Qatar, et le Qatar n'a pas envie de ça. Donc, qu'est-ce que tu risques? Si tu t'exprimes, voilà, tu fais ton job. Et effectivement, Cyril, c'est pas aux sportifs de régler tous les problèmes de la terre, mais effectivement, ça mange pas de pain. Un petit message, ça a sa portée. Et au moins, t'as fait le job. Voilà, tu y vas en disant, ok, nous emmerdez pas assez du sport, mais on est au courant.
Voilà. Tu vois, Simon, tu dis un petit message, mais un petit message, ça suffit jamais. Quand je vois tout ce qui se dit,
on peut pas trop reprocher de pas l'avoir fait.
La preuve, regarde, ils ont mis un petit brassard et là je vois, est-ce qu'ils vont le mettre au Qatar? Ça va, c'est bien, mais il y a pas que ça non plus à dire.
Mais si toi, la FIFA c'est pas encore exprimé et se réserve le droit d'interdire justement au capitaine de porter ce fameux brassard.
Regarde ce qui s'est passé par exemple avec le mouvement Black Lives Matter. Ça a été impulsé par des sportifs et ça a eu une incidence mondiale. Tout le monde a parlé de ça. Ça a vraiment pris une ampleur considérable et ce sont des sportifs qui sont à l'origine de ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Et quand vous prenez la parole, vous avez quand même une vitrine mondiale et vous êtes écouté, vous êtes entendu plus que n'importe qui. C'est ça que je veux dire.
Ouais, enfin, je comprends que le message a été tellement fort que ça a fait un bruit mondialement. Mais là aujourd'hui, en fait, on parle de l'organisation de la compétition. Tu vois, c'est pas une lutte en fait. Enfin, il y a eu ce qui s'est passé, c'est par rapport au policier qui a tué le Black aux États-Unis. Voilà pourquoi il y a eu ce mouvement. Mais là, on parle de l'organisateur de la compétition. Donc pourquoi on dit aujourd'hui le boycott c'est impossible? Parce que tout simplement c'est impossible.
Je ne parle pas de boycott.
Hein, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est deux choses. Pour moi, c'est deux choses différentes. Entre le fait qu'il soit passé une tragédie sur une bavure policière ou alors
une tragédie sur les chantiers au Qatar.
Ouais, voilà. Oui, une tragédie aussi.
Ça sera
possible. Il y a Marc Madiot qui voulait juste m'engueuler sur 15 secondes.
Non, je pense qu'il faut. Pour revenir dans la réalité.
D'accord, ok.
Pour revenir dans la réalité, les sportifs, oui, dans le symbole et la symbolique à travers des actions sur les lieux de sport, mais ça ne doit pas aller au-delà de ça. Je suis désolé, mais ça met en évidence quand même les lacunes des pouvoirs politiques et sportifs.
Okay.
Ça met en évidence ça surtout, et ça, c'est un peu facile de se cacher derrière les sportifs en tant que tels.
Débat très intéressant avec vous les GG. Si vous voulez en reparler, chers auditeurs, ce sera aux alentours de 11h40. N'hésitez pas à composer le 32-16 si vous n'êtes pas d'accord avec une grande gueule. Dans quelques instants, un sujet plus léger, beaucoup plus léger, drôle pour certains, peut-être scandaleux pour les autres, une sortie médiatique de Guy Noves. On vous dit tout dans quelques instants, c'est la punchline des GG. Merci à Nicolas Pelletier d'avoir été avec nous dans les Grandes Gueules du Sport ce matin. A tout de suite.
RMC, les Grandes Gueules du Sport, 9h30.
Jean-Christophe Drouet.
9h32, de retour dans les Grandes Gueules du Sport, votre émission le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Il y a quelques instants, on parlait de l'engagement politique, sociétal ou non, des Bleus pour cette Coupe du Monde au Qatar. N'hésitez pas à réagir, évidemment, au 32-16. On est toujours avec nos champions Cyril Marais, Marc Madiot, Simon Dutin, Christophe Cessieux. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, beaucoup de choses à vous dire, à vous donner, notamment l'élection pour la présidence de l'IBA, c'est la Fédération Internationale de Boxe. Bon, comme ça, c'est pas hyper sexy, mais vous allez voir que notre président de Fédé, Dominique Natto, a allumé, a envoyé punchline sur punchline, car il ne veut pas que le Russe soit réélu. Voilà, vous me direz si cette histoire vous intéresse ou non, car l'élection se passe aujourd'hui. Il ne parle pas souvent et certains pourraient s'en plaindre. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Guy Noves, a commenté hier les déboires judiciaires du président de la FFR, Bernard Laporte, de Mohamed Altrade ou encore de Serge Chimon. Les trois hommes jugés depuis début septembre pour trafic d'influence, corruption et prise illégale d'intérêt. 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, ont d'ailleurs été requis cette semaine contre Bernard Laporte et le président de Montpellier. Un procès qui réjouit fortement l'ancien entraîneur emblématique de Toulouse, Guy Noves. C'est la punchline des GG, c'est très court, mais c'est aussi le principe d'une punchline racontée par notre copine Siri.
RMC, la punchline GG.
Je ne peux pas être plus heureux, plus joyeux que de voir dans quelle merde ils sont.
C'est court, c'est concis, Guy Noves, l'un des plus grands personnages de notre rugby français. A-t-il le droit de dire ça? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui. Bien sûr qu'il a le droit.
Cyril Marais.
Oui.
Marc Madiot.
Oui.
Ok. Simon Dutin.
Oui.
Tout le monde me dit... Les bras m'en tombent, les copains. Tout le monde me dit oui. Simon Dutin, je sais que tu es engagé sur la cause.
Bon, déjà, c'est un régal. On adore la formule. Il faut, évidemment, je pense que je vais reprendre un argument que tout le monde a autour de cette table. Il faut se souvenir du passé. Ils peuvent pas se piffrer. Et tu te mets à la place de Guy Noves, qui est, rappelons-le, le plus grand entraîneur de l'histoire du rugby français, de club en tout cas, qui accède après 20 ans de domination sur l'Europe, en France et en Europe, avec le Stade Toulousain, au poste suprême, le sélectionneur des Bleus. Toute la France du rugby le souhaitait, voulait voir le jeu à la Toulousaine en équipe de France. Et puis Bernard Laporte qui déteste Noves, arrive, nous assure pendant un an ou deux, chaque fois qu'on lui pose la question, vous l'aimez pas Noves, hein, vous ça marche pas, c'est les résultats sont pas terribles, vous allez le virer. Non, il c'est écrit noir sur blanc, hein, je ne le virerai jamais, même s'il ne gagne que deux matchs dans le tournoi, je ne le virerai jamais. Et puis il faut se souvenir qu'en 2017, il est viré pour pour faute grave, hein, c'est pas Coco, tes résultats sont pas bons. Il est viré pour faute grave. Faute grave, t'imagines l'image que ça laisse d'un mec, c'est un sélectionneur, hein, on n'est pas dans une entreprise classique. Pour faute grave. Et on nous dit, vous allez voir, il y a un audit en cours à la Fédération Française de Rugby et qui va vous prouver la faute grave. L'audit, il a jamais été conduit, il a jamais eu lieu. Noves, sa carrière a été brisée, ça l'a dégoûté de ce monde-là. Ça a brisé sa carrière, ça a terni son image parce que effectivement, les gens restent sur cet échec à la tête du 15
de France.
Sur
l'image de loser, c'est ça que tu veux nous dire.
Exactement.
Alors que c'est l'un des plus grands.
C'est le plus grand. Je suis désolé, il y a aucun. Effectivement, on lui a souvent rétorqué, ouais, mais vous êtes pas un peu jaloux parce que Laporte, lui, il a gagné à la tête du 15 de France et tout. Il dit, ouais, en gros, il dit oui, il est pas mal. Il concède à demi-mot que Laporte est un entraîneur à peu près correct, sauf que c'est pas du tout le même style de jeu. Noves, chaque fois qu'on lui tend le micro, et la presse vient chercher ça aussi. Quand t'as Laporte qui est effectivement en procès et qui risque d'être condamné, en tout cas dans certains des volets de certaines affaires, tu te dis, on n'irait pas voir Guy Noves là pour avoir une bonne déclaration.
Je sais pas
donc
si
tu
c'est
sais ce que
presse,
tu vas chercher quand t'intéresses.
C'est la presse. C'est à l'occasion d'un.
Oui, c'est ça.
D'un
meeting.
D'un
ça,
meeting. Ouais. Enfin, d'un meeting. Il était là pour les entreprises. Il fait ce qu'on appelle des ménages. Et il a été interrogé. Mais je crois pas que ce soit des journalistes qui lui ont posé la question. Enfin, il n'empêche que.
En tout cas, depuis 2017, on lui a souvent posé la question. Et à chaque fois, oui, on n'est jamais déçu de la réponse.
Il avait quand même écrit dans son bouquin l'an dernier. Je ne veux pas, ces gars-là, ils sont complètement effacés de mon esprit. Je ne veux pas briser la suite de ma vie pour un an passer à leur côté. Ce sont des gens qui ne m'ont pas respecté, mais je ne ressens pas de haine, je ne ressens rien.
Je ne suis pas sûr.
Tu parles de ton ex qui t'a quitté, ça fait deux ans que tu es au fond du trou et tu dis non, mais j'y pense jamais. Je suis très heureux, beaucoup plus heureux comme ça.
C'est une haine tenace entre les trois hommes. Hein. Moi, je me rappelle avoir fait l'émission avec Serge. Avant qu'il soit vice-président de la Fédé, tu sentais qu'il y avait une haine profonde pour.
Ah ben bah, Noves. De toute façon, c'était d'un côté le
Stade français, de l'autre côté le Stade toulousain. C'était le gros antagonisme entre les deux grands
stades. Ok, mais là vous me parlez de volet sportif. Est-ce que quand on amène ça sur le volet judiciaire, en se réjouissant
des
affaires,
c'est pas joli. Mais il y a
la liberté d'expression.
Okay. C'est pas joli, mais Noves, il a toujours été comme ça. Ouais. Noves, tu sens, c'était un entraîneur fantastique. Le mec, on peut l'apprécier ou on peut ne pas l'apprécier. C'est un mec qui a jamais retenu ses mots, on a toujours senti quand même beaucoup de, pas de haine, mais quelque part en lui. Moi, je me rappelle des interviews avec lui. Il t'envoyait bouler. Tu vois, tu sens qu'il était, c'était un combattant sur le terrain et en dehors du terrain. Et donc, d'entendre ça de sa bouche, ça ne me surprend pas une seconde. Après, bon, c'est pas très fair play, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, les hommes se détestent et voilà.
Ok, ça vous fait plus sourire que de l'indignation, que ce sentiment chez vous, Marc?
Non, moi je pense qu'il faut respecter la liberté d'expression. Alors après, il y a sûrement un peu de haine et de rancœur envers l'actuel président de la Fédération française de rugby, mais ça fait partie du jeu.
Ok, t'aurais pu lâcher ce genre de phrase dans cette situation? Genre tu vois deux mecs que t'aimes pas en français,
à propos de qui sur qui tu pourrais balancer comme ça, Marc?
Je sais pas, ça peut.
Thierry Guimard, non, par exemple, non.
Non.
Pas Thierry Guimard, le président de la Fédé de cyclisme.
Il y a peut-être pas une haine.
Non, pas de haine.
Il y en a pas.
Non, mais il y a des gens avec qui je suis pas très pote.
Ouais, enfin,
c'est normal, c'est la vie, ça.
Heureusement.
Oui, enfin.
Mais est-ce que tu te serais permis de un mec que ton pire ennemi, est-ce que tu balancerais comme ça sur lui de la sorte?
Dans un premier temps, je ne pense pas, mais va savoir.
Okay.
Soyons honnêtes.
Bien énervé.
Cyril Marais, pas choqué.
Enfin, moi justement au début, ça me paraissait bizarre. Non, pas choqué qu'il dise ça, mais
c'était un fake au début.
Ouais, ça me paraissait bizarre. Venant de Noves, ça me paraissait bizarre qu'il dise ça, mais après, quand j'ai regardé le contexte, il est dans l'Aveyron, sur une forme de meeting avec 150 chefs d'entreprise ou un truc comme ça.
Il se sent en confiance, c'est
peut-être
un bon mot.
Il pense pas que ça va sortir.
Ouais, j'ai plus pensé à ça. Je pense que voilà, j'ai déjà fait, alors pas à 150, mais j'ai déjà fait des petites interventions comme ça, où tu, il y a un peu plus d'intimité que devant des micros et devant des journalistes, où tu peux sortir deux, trois trucs, mais bon.
Et là, il y a un scribouillard qui traîne, qui tend l'oreille, qui note la phrase, évidemment.
Voilà. Mais
tu vois, je pense pas que ce soit des journalistes qui soient allés lui poser la question.
Je vois le truc
parce
comme
qu'il l'aurait pas sorti comme ça.
Cyril.
On joue le truc comme ça aussi, après. partir du moment où ça a été jugé, et puis c'est vrai que on sait que pendant qu'il était entraîneur,
non, c'est pas encore jugé définitivement.
Ouais, non, c'est pas définitif.
Bah, il a pris 1 million d'euros. Il avait demandé quasiment 3 millions au prud'homme. Il a pris que un tiers.
Non, et là je aussi, parle de l'affaire du président.
Oui,
de
ah
Laporte.
Oui, oui,
l'affaire
de Laporte.
Non, c'est pas encore. Ce n'est pas jugé. Il y a
13 décembre délibéré, je crois.
Présomption d'innocence.
Oui, il y a ça aussi. Mais non, mais on sait que pendant qu'il était entraîneur, il disait, enfin, il se plaignait de l'avoir vu que 3 fois pendant qu'il était entraîneur, alors que Laporte était président. Enfin, il n'était pas. On sait très bien que c'était pas les meilleurs.
Mais tiens, des fois, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose de pas voir le président de sa fédération. Hein.
Ah. Oui. Ok, on y revient. Non, mais... on va vous dire ben voilà. une réclamation ou pas. Non, pas du tout.
Pas
on
du
a,
tout.
On,
non, a trou- non, on a trouvé. Non. On a trouvé la personne à qui il pourrait dire ça. Va, c'est bon.
Le sportif reste le sportif.
Vous n'êtes pas choqué. En mettant, ça ne m'étonne pas de vous. Vous êtes des grandes gueules. Donc forcément, ce genre de punchline, ça vous régale. J'ai bien compris.
Ça nous anime.
Exactement, ça anime nos débats et on salue Guy Noves. Voilà, et pour cette sortie qui nous a inspiré.
Il n'empêche que depuis que Fabien Galthié est à la tête de la Fédération Française de Rugby, les résultats sont de l'équipe de France, okay. Les résultats sont bien meilleurs que lorsque Noves était okay. Sélectionneur.
Un petit coup de rap, ok, pour Guy Noves.
Je ne peux pas empêcher de vous partager cette petite anecdote. Moi, quand j'étais tout jeune journaliste, un des premiers, numéros, t'es très content de récupérer sur un coin de table. À l'occasion d'une réunion, les numéros, tu sais, de sportifs ou machin. Mais Guy Noves, moi, c'était. Voilà. J'avais le numéro de Guy Noves dans mon téléphone. Et je sais pas ce que foutait mon iPhone, mais il appelait Guy Noves. Tu sais, ça peut arriver, il y a un numéro au hasard dans ton répertoire. Et moi, ça tombait sur Guy Noves et ça l'appelait au hasard en pleine nuit à 4h du matin.
Non.
Et ça l'a fait 4 ou 5 fois.
Qu'est-ce que tu faisais avec ton téléphone à 4h du matin ?
Rien du tout. Justement, il était posé.
Un pocket.
Et c'est arrivé et c'est arrivé, tu sais, ça peut arriver à, je te dis, quel numéro.
Ah bon ?
Et je me disais, et je voyais, et tu regardes par hasard, tu dis, mec, quand est-ce que j'ai appelé Guy Noves, moi ? Quand est-ce que j'ai appelé Guy Noves ? Et j'ai fini par lui envoyer un texto en disant, je crois que je vous ai appelé par erreur, et tout. Et je me disais, mais Guy Noves, il va te déchirer, mec, il va te dire, mais t'es qui, Coco, et tout. Et il avait été très sympathique, il m'avait même rappelé, il m'avait dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je lui avais expliqué que c'était un problème technique, et on avait eu un échange incroyable de gentillesse et de. Voilà, il avait été très compréhensif, et j'avais trouvé ça génial.
On va l'appeler la nuit prochaine.
Il y avait trois personnes, moi, quand j'ai commencé à faire du journalisme sportif, qui vraiment m'impressionnait. Guy Noves, quand tu allais l'interviewer après une défaite du Stade Toulousain, c'était vraiment, il fallait vraiment être bien gainé. Il y avait Jean-Claude Ciodo à la tête du FC Nantes et il y avait Marc Madiot.
Non, non,
non, mais est-ce que c'est
voilà, c'était les trois terrains, les trois. Non, mais parce qu'avec Marc, on a des bonnes relations d'entrée parce qu'on a travaillé ensemble. Mais ça faisait partie des mecs. Tu sais que quand tu vas interroger Marc, que tu es un jeune journaliste,
ça fait partie du jeu du rapport.
Tu poses une question et t'attends.
T'as peur de faire la grève, on est d'accord, bien sûr.
Oui, mais ça fait partie du jeu.
Ça fait partie des personnages.
Ce rapport de force. Aussi.
Bien sûr.
Tu crées une petite peur.
Ah mais oui, une peur, ça s'entretient.
Il l'entretient bien, notre ami Marc Madiot. Allez, 9h43, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. Sachez qu'à partir de 10h, on parlera des mondiaux, hein, Remco Evenepoel et le nouveau champion du monde, le prodige belge. Une deuxième place pour nous, pour les Français, Cocorico, petit Cocorico quand même, avec Christophe Laporte. Est-ce déjà une victoire ? Ce sera notre question et ce sera à 10h. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport.
Il faut avoir mis un short, des chaussettes et des crampons pour comprendre ça.
9h midi.
Il faut aller chercher midi à 14h.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Marc Madiot, Simon Dutin. À partir de 10h, nous allons ouvrir le débat sur les mondiaux de cyclisme. C'était ce matin en Australie. Remco Evenepoel est le nouveau champion du monde. Il détrône. Malheureusement, notre champion Julian Alaphilippe, qui était double tenant du titre, Christophe Laporte a terminé deuxième. Est-ce déjà une victoire pour les Bleus ? Vous devrez répondre à cette question. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, les mots forts de Dominic Natto avant l'élection pour la présidence de l'IBA, la Fédération Internationale de Boxe. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Cyril Marais.
J'adore Dominique, mais je m'en fous.
Ok. Simon Dutin.
Je m'en fous, j'ai pas assez. Là, ça dépasse un petit peu mes compétences. Okay. J'ai bossé, mais je.
Ok, on a le droit de s'en moquer et de s'en foutre, les copains. Marc Madiot.
Je m'en fous pas, mais.
Ok, c'est pas un débat. Il n'y a pas de nuance. Hein. L'élection pour la présidence de l'IBA se déroule aujourd'hui à Yerevan, en Arménie. Le président sortant, le russe Oumar Kremlev, dont l'élection en mai dernier avait été invalidée par le tribunal arbitral du sport, fait face à un Néerlandais. Voici ce qu'en pense le président de la Fédé française, donc Dominique Nathau.
Non, non, c'est des menaces qui sont fondées. Nous ne sommes plus au projet 2028. Je pense que nous, notre place, elle doit rester au projet olympique. Et si ça doit passer par, il faut que les gens s'effacent. À titre personnel, on peut pas. Ce seront des criminels. Ceux qui vont voter pour le Russe, moi, je les considère comme les assassins de la boxe. Donc c'est des mots forts, mais c'est ça.
Les assassins de la boxe. Pour bien comprendre ce dossier, Julien Richard est avec nous de la rédaction RMC Sport. Salut Julien.
Salut tout le monde.
Salut Julien.
Pourquoi parle-t-il d'assassins de la boxe, ceux qui votent donc pour le Russe ?
C'est assez simple. La boxe, aujourd'hui, vous le savez, est au programme des Jeux à Paris en 2024, mais elle ne l'est pour le moment plus en 2028 pour les Jeux de Los Angeles. Depuis beaucoup d'années, la boxe, vous le savez, sous étroite surveillance, gangrénée notamment par la corruption, la gouvernance de la Fédération internationale est pointée du doigt. Oumar Kremlev avait d'ailleurs récupéré une fédération au bord de la faillite au moment de son élection en 2020. Il a renfloué les caisses, faut le dire, mais avec les dollars de Gazprom, des dollars qui auraient d'ailleurs aussi servi, selon ses opposants, à financer sa campagne. Ça n'a en tout cas rien réglé des soucis de gouvernance. Au contraire, Oumar Kremlev est dans le viseur du CIO et de son président Thomas Barr, qui ne veut plus en entendre parler. C'est aujourd'hui, il faut le dire, le seul Russe à la tête d'une fédération internationale olympique, avec celui de la fédération de tir sportif. Donc tant que Oumar Kremlev est à la tête de l'IBA, eh bien la boxe peut dire au revoir aux Jeux Olympiques. La situation internationale n'a évidemment rien arrangé. Kremlev est un proche de Vladimir Poutine. En juin dernier, l'élection de Kremlev avait été vécue comme un affront par le CIO, en raison notamment de cette dépendance financière avec Gazprom. Rappelons quand même que l'organisation du tournoi olympique de Tokyo pour la boxe avait été pris en main par le CIO, hein, retiré à l'IBA. Ce sera aussi le cas en 2024. Je vais reprendre les mots de Dominique Nathau pour terminer, qui fait partie aujourd'hui d'une coalition avec des grands pays de la boxe comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne pour faire élire Boris Van der Vos, le candidat néerlandais. C'est comme si on vous dit, vous allez prendre une gifle, vous dites ouais, c'est ça, ok, mais là cette fois, le coup va partir.
Ouais, le coup va partir, et si il y a une réélection du président russe, eh bien ce sera peut-être un coup fatal pour la boxe. C'est ce que veut dire Dominique Nathau. Tu le comprends,
mais oui, je comprends Dominique Nathau. Évidemment, retirer la boxe du programme olympique pour toutes les fédérations nationales, ce serait une catastrophe. C'est quand même
un noblard
qui fait partie des Jeux Olympiques, a toujours fait partie
des Jeux Olympiques.
Le retirer, moi je trouve que ce serait terrible pour la boxe amateur notamment. Après, il y a évidemment deux sortes de boxe dans le monde, mais je comprends pas pourquoi ils veulent se tirer une balle dans le pied, pourquoi ils veulent continuer à voter pour le président russe.
Il a des chances de passer.
Oui, il a des chances de passer, évidemment. Je crois que la réponse se trouve dans les dollars de Gazprom. Si l'on comprend les mots de Dominique Nathau, il a une enveloppe pour la Fédération internationale et une enveloppe pour sa réélection, et donc ça veut dire aller financer un tas de projets, de mettre énormément d'argent dans le monde de la boxe amateur, mais sur des choses pas forcément très pérennes.
Ils préfèrent avoir de l'argent plutôt que d'avoir leur discipline représentée aux Jeux Olympiques.
Et c'est assez incompréhensible, je suis d'accord avec toi.
Ok, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce dossier. Merci Julien Richard d'être venu nous éclairer. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, la Nouvelle-Zélande qui remporte le Rugby Championship. On s'en fout pas. Christophe Cessieux ?
Non, je m'en fous pas.
Ok. Rugby quand même. Cyril Barré, le lapin dans les phares.
Oui, exactement, on s'en fout.
Voilà, merci. J'en attendais pas de moins. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marc Madio.
On s'en fout.
J'en étais sûr aussi. Mal engagé après deux défaites contre l'Afrique du Sud et l'Argentine, la Nouvelle-Zélande est revenue de loin pour remporter donc le Rugby Championship, l'édition 2022, grâce à sa victoire bonifiée samedi contre l'Australie lors de la sixième et dernière journée. 40-14, il devance d'un point au classement l'Afrique du Sud. Simon Dutin.
Moi, pour une raison très simple, Blacks are back. Voilà, c'est tout.
Je parle pas espagnol, ça veut dire.
C'est de l'allemand. les Blacks sont de retour. Sont-ils jamais vraiment partis?
On se posait la question, c'est vrai.
Bah, ils perdent deux fois de suite, alors qu'ils sont éreintés contre l'Irlande, puis la France. Et là, ça y est, évidemment. Alors, c'est la crise nationale au pays, évidemment. Ils sont pas habitués, les mecs. Donc, forcément, le sélectionneur est remis en cause. Il y avait une interview de Richie McCaw, l'ancien capitaine des Blacks, là, il y a quelques jours, une dizaine de jours dans le middle, et qui réitérait lui toute sa confiance au staff en place, et qui disait parfois il y a pas grand chose en fait entre une défaite et une victoire, entre une équipe dominante et une équipe qui est plus en confiance. Et la preuve est qu'il avait raison d'y croire. Je pense que la pire erreur qu'on pourrait faire à un an de la Coupe du Monde, c'est de sous-estimer la meilleure équipe du monde. On dit souvent c'est les Brésiliens du rugby, sauf qu'ils sont, à la différence des Brésiliens, eux, jamais redescendus de la plus haute marche, selon moi, du rugby mondial. Donc ils prouvent que c'est encore
une nation redoutable. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
On rappelle que les Blacks affrontent les Bleus en ouverture du mondial.
Alors non, effectivement, je n'ai pas vu le match.
Il y a un gros écart, mais franchement, c'est pas les Blacks d'il y a quelques années. Ils sont largement en dessous. Ils ont battu une très faible équipe d'Australie. Évidemment que les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, seront toujours une nation dominante du rugby, mais je les trouve moins dominants qu'il y a 4 ans à la même époque, juste avant une Coupe du Monde, et qu'il y a 8 ans. Je trouve qu'ils sont vraiment prenables par les équipes européennes, et j'ai l'impression aujourd'hui que le rugby européen a pris le dessus sur le rugby du Sud. On le verra évidemment lors de la Coupe du Monde, on le verra aussi probablement lors de la tournée de novembre. Moi, c'est pas des Blacks qui m'ont impressionné, même si hier ils ont mis une raclée à l'Australie.
Mais que les Français et les Irlandais soient très très forts et peut-être meilleurs que ces Blacks.
Oui, voilà.
Peut-être. Mais en tout cas, il y a quand même une tendance, une petite musique
qui,
à considérer
jamais.
Que c'est devenu des victimes, que les Blacks, ils sont bons à prendre, que c'est un adversaire.
Une défaite des Blacks en Nouvelle-Zélande, c'est vécu comme un jour de deuil national. Mais ils sont pas aussi impressionnants que les fois d'avant.
Allez, très rapidement, une troisième information dans le zapping des GG à vous donner. L'Égypte qui envisage sa candidature pour les JO 2036. On s'en fout pas. Marc Madio.
Je m'en fous.
Je t'adore. En plus, j'adore quand tu dis je m'en fous. Je trouve que ça te va très bien. Simon Dutin.
J'aurai 54 ans, je m'en fous. J'y sais.
Ok. Cyril Marais.
Ouais, c'est délicat.
Je m'en fous.
Ouais. Allez, tu t'en fous.
Ouais, allez, air zapping.
C'est quoi je serai à l'EHPAD et je regarderai les Jeux Olympiques en 2036.
Donc, tu t'en fous. Et si on est à l'EHPAD, c'est peut-être encore une chance.
Mais bon.
Être à l'EHPAD, c'est peut-être encore une chance. On sera peut-être
on sera peut-être 6 pieds sous terre. Oui, tu as raison.
2036, j'espère 2036, que tu seras 22, toujours 22, dans les grandes 24, gueules du sport.
J'espère pas quand même. Pour les auditeurs, j'espère pas.
Bon, bah, tout le monde s'en moque de mon information, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver tout ça sur rmcsport.fr si vraiment vous trépillez d'impatience à l'idée de savoir si l'Égypte pourrait organiser les JO en 2036. 9h56, on se retrouve dans quelques instants. Remco Evenepoel est le nouveau champion du monde de cyclisme. La France, avec Christophe Laporte, termine deuxième. Est-ce une victoire, oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.